Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Olivier Tesquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions numériques à Télérama, et avec vous on va évoquer une affaire qui est passée relativement à bas bruit durant les vacances de Noël, mais qui pose quand même de sérieuses questions. Le Financial Times a fait état d'une étude qui montrait qu'une vingtaine d'applications Android, qu'on utilise donc sur nos smartphones, transmettraient à Facebook nos données sans que nous, on en ait été informés. Alors d'abord, pour préciser les choses, parce que j'ai cherché mais j'ai pas trouvé beaucoup, de quelles applications est-ce qu'on parle ?
Alors il y avait notamment des applications de réservation de billets, ce genre de choses, par exemple Skyscanner, Kayak, qui sont quand même des applications très utilisées par le grand public, qui permettent de comparer des vols, de choisir des billets d'avion, etc. Il y avait des applications de fitness, des applications de météo qui sont aussi quand même assez, voilà, assez notoirement météo, des oui. espèces d'aspirateurs à données qui sont ensuite transmises à des tiers, et on ne sait pas trop ce qu'il advient de ces données-là. Et donc effectivement, l'étude a montré que 61% de ces applications, une fois qu'elles étaient ouvertes sur un téléphone Android, transmettaient des données sans que l'utilisateur ne soit au courant, à tel point que ces données-là étaient transmises à Facebook, quand bien même vous n'êtes pas un utilisateur de Facebook.
Ah oui, on va en parler, mais qu'est-ce qu'on envoie comme données précisément? Quand on parle de données, c'est quoi?
Alors là, en l'occurrence, c'était notamment les données relatives à ces services-là, c'est-à-dire que vous êtes, mettons, sur Skyscanner, vous cherchez un vol et un endroit pour partir en vacances, les données de type de réservation, savoir combien de billets vous avez acheté, combien vous avez payé, quel téléphone vous utilisez, quel est son numéro de série, peut-être, voilà, ce genre de choses peuvent être transmis comme ça à Facebook sans que vous le sachiez vraiment.
Donc ce que vous disiez, c'est que Facebook, du coup, a des données de personnes qui n'ont pas forcément de compte chez lui.
C'est ça. Alors en fait, c'est là où il faut préciser quelque chose, c'est-à-dire que Facebook est à la fois évidemment une gigantesque base de données, une gigantesque régie publicitaire, mais c'est aussi un courtier en données, c'est presque le premier courtier en données, c'est-à-dire que Facebook vend des données à des entreprises tierces, mais Facebook en achète aussi, c'est-à-dire qu'ils sont l'espèce de gigantesque échangeur autoroutier où transitent des dizaines, des centaines, des milliers, des millions probablement même de données de tout type qui peuvent être effectivement du numéro de série de votre smartphone à votre historique d'achat sur Internet.
Et qu'en font ceux qui utilisent ces données ?
Alors ça, c'est la grande question. Ça, c'est effectivement, c'est le gros point noir. Aujourd'hui, on a une visibilité quasi nulle sur toutes ces entreprises tierces qui travaillent avec Facebook. En gros, on pourrait catégoriser trois types d'acteurs. Il y a les grandes plateformes. Donc là, on parle de Facebook, mais ça pourrait être Google, par exemple. Il y a des entreprises de services qui sont adossés à Facebook quelque part, qui peuvent être, je sais pas, des Netflix, des Spotify, qui sont aussi des assez gourmands en données. Et puis on a tous ces acteurs de l'ombre qui sont des courtiers en données, qui sont très peu visibles, très inconnus du grand public, et qui à la fois achètent des informations à Facebook pour faire du ciblage publicitaire par exemple, ou pour faire du calcul de score de crédit, ce genre de choses, et qui aussi en vendent à Facebook. Mais Facebook est quand même assez conscient que ça peut poser problème, c'est-à-dire que quand il y a eu le scandale Cambridge Analytica l'année dernière, donc du nom de cette officine britannique qui a siphonné Facebook pour aider la campagne du Brexit et pour aider la campagne de Donald Trump. Quelques jours après le début du scandale, Facebook a très discrètement, et quand je dis très discrètement, c'était vraiment dans un communiqué de 4 lignes, indiqué qu'ils arrêtaient ce partage avec des entreprises tierces à des fins publicitaires.
Donc, sauf même, que là, ça continue.
Alors,
si on vous
entend. Ça pose quand même deux questions, c'est-à-dire que combien d'entreprises sont concernées ? Parce que Mark Zuckerberg, après le scandale Cambridge Analytica, a dit on va lancer un gigantesque audit pour savoir, en gros, avec combien d'entreprises on a partagé les données. Il a clairement laissé entendre que ce serait très long parce qu'il y en avait des milliers. Et puis surtout, est-ce qu'on fait vraiment confiance à Facebook? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un scandale par mois, quasiment, si ce n'est plus. Est-ce qu'on a vraiment envie de les croire sur parole quand ils nous disent on vous promet qu'on a fermé le robinet? Effectivement, quand on apprend ce genre de choses, ça donne quand même plutôt envie de soulever le capot pour voir si c'est du lard ou du cochon.
D'autant plus que tout ça est illégal. Au regard de la nouvelle réglementation européenne, c'est illégal.
Alors, c'est vrai que ça pose évidemment souci. Parmi, on va dire, les très grosses plateformes aujourd'hui, je pense que Facebook sont ceux qui sont regardés de plus près par les autorités européennes par rapport au RGPD, effectivement, donc le nouveau règlement sur la protection des données personnelles qui est entré en vigueur en mai dernier, parce qu'effectivement, il y a un gros problème de consentement dans l'accès à ces données. On peut citer un autre exemple. Le New York Times nous a appris il y a quelques mois que certaines entreprises ont pendant des années, donc là c'était antérieur au RGPD, ont eu une espèce de partenariat privilégié avec Facebook qui leur permettait de récupérer tout un tas de données. C'est-à-dire, par exemple, on a découvert que Spotify récupérait les messages privés de ses utilisateurs. On a découvert que Airbnb, Lyft, qui est un concurrent américain de Uber, récupéraient eux aussi énormément de données. Alors, c'est aussi lié au fait que quand vous vous connectez à certaines plateformes, on vous propose aujourd'hui de plus remplir le champ email et le champ mot de passe. On dit connectez-vous avec Facebook, c'est plus pratique, c'est en un clic. Sauf que quand vous faites ça, vous laissez quelque part rentrer le loup dans la bergerie.
C'est le cheval de Troie.
Voilà, c'est le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, il n'est pas déraisonnable d'imaginer que les données que vous allez partager sur l'application ou le service sur lequel vous êtes vont ensuite atterrir d'une manière ou d'une autre chez Facebook.
Bon, en même temps, ça commence à se savoir. Vous évoquiez ces scandales à répétition. Il y a eu une amorce de désabonnement de Facebook l'année dernière. Est-ce que ça se confirme? Est-ce que ça s'amplifie? Ou au contraire, ça a fait flop?
Alors, on pensait que ça ferait flop, comme assez souvent, parce que c'est pas la première fois que ça arrive quand même depuis quelques années. On est quand même en train de se rendre compte avec les études qui commencent à sortir que ça a un effet. Et ça a notamment un effet sur les populations les plus jeunes. C'est-à-dire que sur les tranches d'âge de on va dire les 15-25 ans à peu près, il y a un désabonnement ou un départ assez massif de Facebook. On a des gens qui suppriment l'application, on a des gens qui quittent définitivement l'application. Et moi, par exemple, je lisais la semaine dernière une étude américaine qui sondait des gens, c'était vraiment des citoyens, c'était pas forcément que sur Facebook, pour savoir en qui ils avaient confiance, par exemple, sur le développement et l'encadrement des intelligences artificielles. Et on se rendait compte que ceux qui arrivaient vraiment tout en bas, mais vraiment tout en bas, c'était Facebook. Il y avait 4% des gens qui avaient confiance en Facebook, parce qu'aujourd'hui, c'est la vraie difficulté qu'ils ont, c'est que le déficit de confiance envers Facebook, il est immense.
Alors, on évoquait tout à l'heure le côté illégal ou la question de la légalité de ce qui se passe. En même temps, il n'y a pas de poursuite ou peu de poursuite. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai qu'il y a assez peu de poursuites. Alors, il faut quand même se dire que le RGPD, dont on parlait tout à l'heure, il est entré en vigueur
en mai
dernier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le RGPD, on est un peu dans l'attente du Big One, qui serait un peu le premier cas.
Coup de pied dans la fourmilière.
Sur le cas d'une très grosse plateforme, que ce soit Facebook ou que ce soit une autre. Hein. Pareil, quelques mois avant l'entrée en vigueur du RGPD, on a eu l'histoire avec Uber, qui s'est quand même fait voler des dizaines de millions de données d'utilisateurs, qui en plus l'a sciemment caché aux utilisateurs en question en essayant de récupérer les données. Il n'est pas déraisonnable d'imaginer là aussi que si les autorités européennes, dans le cadre du RGPD, s'étaient penchées là-dessus, il y aurait eu une amende probablement record. Parce qu'encore une fois, l'amende peut aller jusqu'à 4% de chiffre d'affaires, ça fait quand même beaucoup.
Donc à suivre. Merci pour toutes ces explications, Olivier Tesquet. Alors je précise qu'on peut vous retrouver vos réflexions sur votre blog qui se trouve sur le site de Télérama.